Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, l'Euro. Quatre matchs hier. La France et le Portugal ont fait match nul, deux buts partout. Deux buts de Karim Benzema pour les Bleus et deux buts pour Cristiano Ronaldo. Un régal pour les spectateurs et la France affrontera la Suisse en huitième de finale. Team RFI était sur place, dont Antoine Grenier.
Et là, il s'offre un doublé ce soir, Karim Benzema. On a longtemps cru que cette rencontre ne serait qu'une affaire de pénalty. Pénalty concédé par Hugo Lloris pour une grosse faute sur Danilo Pereira à la 25e minute qui permet à Cristiano Ronaldo d'ouvrir la marque. Et puis un autre pénalty en faveur cette fois-ci de l'équipe de France pour une faute de Semedo sur Kylian Mbappé. Pénalty accordé après vérification vidéo. Et Benzema s'offre enfin ce 28e but en équipe de France qu'il attendait depuis bientôt 6 ans. Benzema à la manœuvre à nouveau au tout début de la seconde période, qui inscrit d'un magnifique plat du pied croisé le deuxième but des Bleus, 2-1. L'égalisation de Ronaldo pour une main de Koundé dans la surface. Égalisation sur pénalty marquera l'histoire parce que c'est le 109e but du Portugais en sélection. Record qu'il partage désormais avec l'Iranien Ali Day. De partout, Français. Les Français terminent premier de leur groupe F. Les Portugais sont qualifiés. La France ira, a priori, ira à Bucarest affronter la Suisse.
On écoute maintenant Karim Benzema, l'auteur du doublé. Il est sur TF1.
Un gros match contre une grande nation. On connaît l'équipe du Portugal avec beaucoup d'intensité. Donc voilà, il y a eu des buts, des occasions. On a essayé de produire du jeu, d'essayer de se procurer des occasions et on a réussi à mettre deux buts. Il y a toute une pression autour de moi, ce qui est normal, et comme je le dis à chaque fois, il faut jamais baisser les bras et toujours avoir un but dans la vie. Et voilà, c'est ce que je fais, ce que j'essaye en essayant de faire des mouvements. Et aujourd'hui, ça m'a souri, ça fait plaisir. Et le plus important, c'est qu'on s'est qualifié.
Et maintenant, la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur, sur la performance des Bleus pour ce premier tour de l'Euro.
Gagner ce premier match contre l'Allemagne a été très très important pour nous. D'avoir pris malgré tout ce point dans un contexte si particulier. Pour différentes raisons contre la Hongrie, c'était aussi nous a offert avant de jouer ce match la qualification. Mais comme je l'ai dit aux joueurs, il n'y avait pas de calcul à faire si ce n'est à la fin, puisque l'Allemagne a fini plus tôt. Donc de ne pas prendre de risque, puisque le match nul nous suffisait et suffisait aux Portugais malgré tout pour être qualifiés. Donc on a eu trois matchs différents, mais voilà, c'est haute intensité. On n'a pas tout bien fait, mais l'état d'esprit est là. On peut encore améliorer des choses, bien évidemment. Là, on aura un jour de plus. Ça ne va pas faire de mal pour récupérer, puisqu'on joue dans 5 jours, lundi prochain, tout autre adversaire. Donc satisfait, très satisfait d'être au rendez-vous encore une fois.
Et avant le match, les fans rendaient hommage à N'Golo Kanté et à Kylian Mbappé. Écoutez. Dans les autres matchs, l'Allemagne et la Hongrie ont fait match nul, deux buts partout pour le groupe F. L'Espagne a écrasé la Slovaquie 5-0. La Suède s'est imposée contre la Pologne 3-2. Mardi, dans le groupe D, il y avait deux matchs. La Croatie s'est imposée contre l'Écosse 3-1. L'Angleterre a battu la République tchèque 1-0. Et maintenant, on écoute Annie Gasnier et Nabil Djellit de Radio Foot International qui reviennent sur les faits marquants de ce premier tour de l'Euro.
Qu'est-ce que vous diriez-vous, Nabil, qui vous a marqué, qui vous a choqué, qui vous a enthousiasmé?
Voilà, bon, je pense qu'il y en a un qui est quand même incontournable. Malheureusement, c'est quand même ce qui est arrivé au joueur du Danemark, Eriksen.
Oui, mais ça se finit bien, donc,
il y a un véritable, effectivement, soulagement.
Bon, soulagement d'autant que le Danemark eh bien, se retrouve à jouer ses huitièmes de finale.
C'est la première fois dans l'histoire de
face
l'Euro
au Pays de Galles,
que
le premier...
une équipe qui perd ses deux matchs sur trois arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai que c'est un magnifique compte pour les Danois au pays d'Andersen et de la petite
exactement.
Sirène.
Alors voilà.
je vais rester sur le terrain, je ne vais pas aller chercher des choses extra-sportives.
Allez, sur le terrain.
L'extérieur du pied hier de Modric, voilà, tout simplement, d'une pureté
troisième
incroyable.
Troisième but des Croates.
Voilà, ce but-là, c'est celui qui m'a le plus ravi. Alors, il y a eu des beaux buts, celui de Chic, notamment, le joueur de la République tchèque avec cette frappe
au
milieu de terrain. Mais voilà, Modric, les grands champions.
Et vous, Xavier Barré?
Moi, je trouve surtout que, finalement, à l'arrivée, on retrouve les 16 qualifiés pour ces huitièmes de finale sont toutes les meilleures équipes. En fait, il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de scandale. Les Polonais ont été très décevants, ils n'y sont pas. Les Turcs ont été archi décevants, ils n'y sont pas. Les Finlandais étaient déjà heureux d'être là. Bon, il s'en est pas fallu de beaucoup, mais ils ne sont pas passés en huitième de finale.
L'Écosse aurait mérité peut-être meilleur sort.
L'Écosse, oui, mais ils sont en dessous de la Croatie, en dessous de la République tchèque et en dessous de l'Angleterre. Donc, quelque part, on a vraiment l'élite du football européen au rendez-vous de ces huitièmes de finale. On a les 16 meilleurs du continent. Alors bien sûr, on peut dire que ça servait à rien de faire un premier tour comme certains grincheux pour éliminer 8 équipes. Non, moi je trouve que la fête a été belle, que la Macédoine avait droit de participer, ils se sont bien battus, que les Finlandais sont venus aussi, que des pays qu'on avait moins l'habitude de voir, les Slovaques aussi, même s'ils ont explosé aujourd'hui contre les Espagnols, ils sont voilà. Ouais. Donc cet Euro finalement, ben moi il me donne vraiment beaucoup de satisfaction pour le moment.
Eh bien la fête de l'Euro continue, elle continue sur les terrains d'Europe.
Un mot de basket, l'Euro féminin, la France a battu la Bosnie hier en quart de finale, 80-67. Les JO de Tokyo débuteront le 23 juillet prochain. Je vous propose un extrait de ce focus à un mois de l'ouverture des Jeux avec Nathalie Amar et Claire Broadhurst de Radio France Internationale.
La tenue de ces JO ne fait toujours pas l'unanimité. Oui, on sait que les sondages montrent que les Japonais n'y sont pas favorables. La crainte d'une résurgence de l'épidémie est dans tous les esprits, d'autant que seuls 7% des Japonais ont reçu 2 doses du vaccin à ce jour et que des athlètes avec leurs coachs et les médias vont arriver des 4 coins du monde sous peu. Pour Michael Head, chercheur en santé globale à l'université de Southampton en Grande-Bretagne, les Jeux auraient dû être repoussés d'une année supplémentaire.
Il sera extrêmement difficile de maîtriser les infections tout au long des Jeux, de garder le nombre de cas de Covid le plus bas possible et que les gens ne ramènent pas le virus dans leur pays. Nous savons qu'il y a des variants inquiétants qui circulent et si l'on met ensemble des gens qui viennent de pays différents, ça ne peut qu'accroître les risques de nouveaux variants et ça pourrait avoir un impact sur la vaccination globale. Même si j'aime le sport, si j'adore les Jeux Olympiques, d'un point de vue de santé publique, leur tenue n'est vraiment pas une bonne idée.
Donc ça, Cléa, c'est l'avis des plus pessimistes, on l'a compris. Mais si les Jeux sont maintenus, c'est aussi parce que les autorités japonaises ont jugé qu'il y avait moins de risques qu'auparavant.
Alors oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si par exemple les Américains et les Européens ont opté pour une stratégie sur le long terme avec une vaccination massive, Tokyo a voulu maîtriser la propagation au fur et à mesure. C'est pourquoi, pour comprendre la décision des autorités nippones, il faut regarder les chiffres par tête, explique le biologiste Spencer Fox, directeur adjoint du consortium Covid-19 à l'université du Texas d'Austin.
Il est important de noter que même si le Japon vient de faire face à une nouvelle vague de cas de Covid, si l'on compare les chiffres avec ceux des États-Unis, lors de cette dernière vague, même à son pic, le ratio par habitant était toujours plus bas que lors du pire moment de la pandémie aux États-Unis. Donc avec les chiffres actuels et au regard du déclin de la vague, si 10 000 Japonais, ce qui sera la jauge autorisée dans les stades, se rendaient à un événement, selon nos estimations, une personne au maximum se trouvant dans la foule serait infectée. Les chiffres sont bas à ce point-là.
Et rappelons-le, seuls les Japonais pourront assister aux Jeux puisque les touristes étrangers ne pourront pas se rendre au Japon.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.